Ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lane. Alors, la question de Rouven, qu'est-ce que c'est que le Chilul Hashem, la profanation du nom de Dieu? Et je rajoute, en contrepartie, le contraire, c'est la sanctification du nom de Dieu, Kiddush Hashem. Une chose très importante, plus importante de toute la Torah, c'est comme c'est marqué dans Isaïe, tout ce que j'ai créé pour ma gloire, l'Echvodi. Tout notre but sur Terre, c'est de sanctifier le nom de Dieu. Si quelqu'un fait le contraire, alors sa vie n'a pas raison d'être. C'est pour cela que tous les péchés sont sanctionnés, tous les péchés peuvent être expiés par la tshuva, ou tshuva et Yom Kippour, ou tshuva et Yom Kippour et souffrance. Il n'y a que le Chilul Hashem, donc la profanation du nom de Dieu, qui n'est expiable totalement que par quatre étape, tshuva, Yom Kippour, souffrance et mort. Parce que c'est le pourquoi de notre vie. Il faut très attention à cela. C'est marqué aussi que même Shogeg, qui a une façon involontaire à faire Chilul Hashem, là aussi il est sanctionné, et qu'Hashem n'attend pas. D'accord, pour d'autres péchés, des fois Hashem il attend qu'on fasse tshuva. Ça aide un peu, c'est pas totalement, au moins ça aide un peu. Là, la réaction peut être extrêmement rapide. Alors, c'est quoi Chilul Hashem? Il y a trois sortes de Chilul Hashem. Premier Chilul Hashem, comme vous savez, il y a, si quelqu'un vient, met un pistolet à la tempe et nous dit, transgresse à l'intérieur de la Torah, on transgresse, comme il écrit, et la mitzvot d'Asher Yaseh Adam va chaybaim, c'est la mitzvot qu'un homme fera et vivra en elle. Donc, pas chez Yamoud, pas qui meurt, mais qui vive. Donc, quelqu'un vient te dire maintenant, déchire avec tes dents un cochon Yom Kippour et faisant des brochettes pendant Yom Kippour, tu le manges avec bracha le batala, bracha en vin, parce qu'on ne fait pas de bracha sur un aliment qui n'est pas kasher. Il a fait plusieurs avérotes d'un coup, plusieurs péchés d'un coup, il le fait, gaiement, sachant que maintenant la Torah lui ordonne de garder sa vie sauve pour faire encore des mitzvot après, mieux vaut maintenant transgresser et vivre. À part trois cas de figure. Premier cas de figure, c'est celui de transgresser un des trois interdits graves, qui sont l'idolâtrie, l'assassinat. On dit idolâtrie, prosterne-toi devant une idole, ou fais tout, il y a plusieurs interdits d'idolâtrie, tu transgresses un de ceux-là ou je te tue. Alors, on se fait tuer et on ne transgresse pas l'interdit d'idolâtrie. Si quelqu'un se prosterne devant l'idole, il ne sera pas puni pour ça. Parce que c'était anus. Anus signifie malgré lui. C'est marqué anus achman patré. Quelqu'un qui a été contraint malgré lui, violé dans ce sens, on ne peut pas le rendre coupable d'avoir fait l'idolâtrie. Donc pour le péché d'idolâtrie, il ne sera pas sanctionné. Par contre, il sera sanctionné pour avoir fait Chilul Hashem. La Torah ordonne à ce moment-là de sanctifier le nom de Dieu et de préférer mourir plutôt que de faire cet interdit-là. Et s'il transgresse, alors il a transgressé Chilul Hashem et il n'a pas transgressé idolâtrie. Deuxième assassinat, tu tues quelqu'un ou je te tue, mieux vaut se faire tuer que de tuer quelqu'un d'autre, comme la Gemara qui dit que ton sang est plus rouge que celui de ton prochain. Troisième, Gilou Erayot. Gentiment, après, traduit en français, adultère, pour soi-disant autoriser tout le reste. D'accord, adultère, ça veut dire adultère, bon, j'aurais fait de mal, je suis avec ma copine, d'accord? Non, messieurs, toute relation physique, tout contact physique, provoquant un moindre plaisir charnel, même un petit bisou, d'accord, même se tenir par le petit doigt comme ça, c'est un plaisir charnel à cela, avec une femme qui n'est pas une femme mariée, qu'elle soit juive, qu'elle soit pas juive, qu'elle soit quoi qu'elle soit, d'accord, c'est mieux vaut se faire tuer. Donc, on te dit, ou bien tu fais maintenant une bise à ta fiancée, ou je te flingue, tu dis, vas-y, tire-moi dessus, mais on se marie demain. Actuellement, elle est nida, elle n'a pas été au mikvé, une femme nida, c'est interdit, de horaïta, tout contact
sur le coup de la pression, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de plaisir charnel, comme vous dites, sur le coup de la pression, je le fais comme ça, c'est bon.
On regarde pas maintenant si tu as du plaisir ou pas en ce moment-là, on regarde, est-ce qu'en soi, c'est considéré comme un acte de rapprochement physique charnel provoquant d'habitude du plaisir.
C'est pas qu'un avis qui dit pour la bise.
La bise, personne ne dit la bise. La Lachal dit comme ça. Tout contact physique provoquant d'herbia, c'est-à-dire provenant d'herbia, provoquant un plaisir.
Mais c'est pas que la relation qui est le chouchou.
Non.
Parce que moi, il y a 6 mois,
j'ai... Ah, mets-moi ton chouchou tu me parles maintenant. Allez, Yorodéa, couvre-nous.
J'étais
bête. Avant que tu parles, Yorodéa, bête, on va regarder dedans.
Ils vont regarder aussi.
Peut-être que ton père a raison, je me trompe.
Regardez aussi.
Oui. Et qu'est-ce que tu as vu?
Regardez.
Ah, regardez, non, regardez, c'est pas un contact physique. Sinon, on ne pourra plus sortir dans la rue, c'est terminé.
Pourtant, regardez, ça peut provoquer vraiment un vrai plaisir.
J'ai pas dit que j'ai permis. C'est interdit, c'est un lave grave comme manger du porc.
Quoi?
Quoi? Oui? Non, regardez une femme. Comme manger du porc. D'après Rabbanu Yonah, en tout cas. Rabbanu Yonah, il dit que c'est un lave de horaïta. Et le Rambam dit que c'est plus grave que d'autres péchés. Pourquoi? Parce qu'il y a une chazaka, une présomption que le type ne fera pas de choua là-dessus. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai pas touché, genre. J'ai juste regardé une seconde. On n'a pas le droit de profiter des belles choses. Pourquoi Dieu les a créées belles, hein? Les arguments bidons, des gens bidons.
Et là, on dit qu'il y a un type qui faisait des brachot quand il voyait des belles femmes.
Non, il y a une gemara dans Avodah Zarah. Rabban Gamliel. Il était dans la rue, du coup il a vu une femme très belle. Il a fait une bracha. Baruch ata Hashem, shekachalo be'olamo. Une bracha à faire, d'accord. On va poser la question de comment il a regardé. Il a dit c'était dans un coin de rue. Il est arrivé, puis tac, il a s'est mis devant lui, comme ça. C'est vraiment, même malgré lui, puis il a été choqué de sa beauté. Il a fait une bracha. Mais pas qu'il a regardé, Has v'shalom.
La bracha, elle veut dire quoi en elle-même, la bracha?
Béni soit l'Éternel, qu'il a un monde qui est pareil.
Wow.
Le colisou à vos dates et chaque interdit, l'idolâtrie, l'urayot, toute interdiction sexuelle, donc tout rapport, enfin tout contact physique avec n'importe quelle femme interdite, donc peut-être aussi sa femme quand elle est nida. Tant qu'elle n'a pas été au mikvé. Shudamim et assassinat. Afalpi shen bo mita. Bien qu'il n'est pas sanctionné par la mort. Rak lav be'alma. Qu'un lave. Un interdit de lave. C'est-à-dire un ne pas de la Torah. Ne pas. Il y a des ne pas qui sont sanctionnés par la mort. La relation sexuelle elle-même. Avec une femme adultère, avec une femme nida. Non, pas avec une nida, c'est un karet. Non, c'est un karet, d'accord. Avec une femme adultère, c'est sanctionné par la mort. Même si ce n'est pas son séparation, c'est qu'un lave. Là, c'est la Torah du ne pas. Or, il y a un interdit de la Torah qui dit l'autre écrivez vous, les galotes, herba, vous rapprocherez pas. La lune, c'est quoi l'autre écrivez tout le rapprochement, tout ce qui est contact physique amenant à cela. Dès qu'on a un peu le plaisir, ça amène à cela. Ça peut amener à cela. Ça suffit, c'est interdit. Question maintenant sur cela. Alors, les post-clim actuellement, je ne sais pas les post-clim, moi-même, je me pose la question, j'en ai parlé à 2-3 rabbins. Quand on fait la bise, bonjour, nini, on fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je ne sais pas, ils sont arrivés à 6 bientôt, je ne sais pas combien de fois ils font la bise, d'accord, pour poser bonjour. Il y en a qui disent non, c'est un acte de politesse. Ils disent non, mais en soi, maintenant, la bise, ce n'est pas un acte de politesse. Peut-être qu'eux n'ont pas de plaisir à ce moment-là, mais en soi, c'est un signe de rapprochement, une bise. On reste dans le doute. Ok, embrasser sur la bouche. Se tenir langoureusement le petit doigt. D'accord. Bon, ça ne va pas.
Avec un gant.
Si quelqu'un maintenant, il y a comme ça, il y a des cas dans la halakha où par exemple un monsieur, sa femme est malade. Maintenant, il n'y a personne là, elle est nida. Et elle a besoin d'être aidée. Est-ce qu'il peut la toucher, oui ou non? Alors, normalement, pas. Dans un cas extrêmement, on n'a vraiment pas le choix. Normalement, il doit louer quelqu'un pour faire. Il doit payer de l'argent au milieu de la nuit, trouver quelqu'un qui fasse ça. Mais dans les cas vraiment extrêmement où il ne peut pas, on l'autorisera par un court temps par le biais d'un habit. En tenant pas la chair elle-même, par le biais d'un habit. Donc, c'est moins grave. Est-ce que c'est autorisé? Alors, dans des cas extrêmes, des gens malades, etc. D'accord? Dans ce cas-là. Donc on voit que c'est moins grave. Mais ça aussi, à condition, tout le monde précise, qu'il n'ait aucune pensée à ce moment-là. S'il a une pensée, c'est comme par exemple, au niveau du contact physique, on donne trois... Il y a trois sortes de contacts physiques. Tu vas à la macolette, tu vas à l'épicerie, la dame te rend la monnaie, et en passant, elle touche ta main. Interdit ou permis ? Permis. Pourquoi ? Il n'y a aucun plaisir. C'est très court, c'est rien, c'est permis.
Et si elle est Nida ?
Ça ne change rien. Nida, pas Nida, ça ne change absolument rien. Une femme, hein ?
Alors comment ça se fait qu'une femme avec son mari, si elle veut lui placer par exemple un briquet, elle ne peut pas lui passer dans la main comme ça, et donc...
Il faut... Entre le mari et la femme, il y a certaines lois d'éloignement. Quand elle est interdite, qui ne sont pas interdites avec d'autres femmes. Je me souviens à l'époque, un proche de ma famille, dans mon immeuble, sa femme a fait une fausse couche. C'est Shabbat, etc. Ils ont mis l'ambulance. Et il la descend sur le brancard comme ça. Je lui dis non, tu peux pas, c'est moi qui ai pris. Elle a été choquée, comment moi je peux prendre le brancard de sa propre femme et lui peut pas. Brancard, on dit comme ça. Brancard, c'est pas l'endroit où on met les morts, hein. On met les gens vivants, d'accord là. D'accord. Alors oui, parce que.
Lui,
il était une personne qui tenait le brancard pour, dans la ville, il y avait sa femme qu'on mettait dans l'ambulance. Moi, je lui ai pris non, t'as pas le droit, hop, et je l'ai pris moi. Il était un peu choqué, quoi. Il veut participer, il est avec elle. Moi, je suis un étranger, je viens, non, moi je peux, et toi, tu peux pas. Et vu que lui, il est proche d'elle, alors il y a certains interdits qui sont des interdits des rabbanan, d'éloignement, d'accord. Et ça concerne qu'un homme avec sa femme, pas avec les autres femmes. Donc moi, j'ai pu prendre le brancard, mais c'est pas ma femme, et enfin, vu que c'est pas ma femme, d'un côté, donc c'est plus grave parce que c'est pas ma femme, d'un côté, c'est permis, parce que dans ce cas-là, parce que c'est pas ma femme. Bon, donc, attends, je suis en train, on va perdre le fil. Donc, je vous explique maintenant qu'il y a trois sortes de contacts. Donc, un contact très court, sans aucune pensée, c'est permis. Un contact plus long. Par exemple, tu vas te faire une prise de sang. L'infirmière, tu retrousses machin, elle prend un coton, tout ça, elle nettoie comme ça, elle te tient le truc, elle machin, tout ça, elle te tient. Donc, tu vas chez le dentiste, elle va venir, d'accord, une dentiste, d'accord. Là, il y a un contact déjà qui est plus long, ça ne fait pas de plaisir chez le dentiste, d'accord, c'est aussi une prise de sang, il n'y a aucun plaisir là-dedans. Alors, c'est permis, mais s'il y a une mauvaise pensée, c'est interdit tout de suite. La pensée rend ça interdit. Troisième cas, où c'est un contact qui est plus long, bien qu'il n'y ait pas de pensée, c'est interdit. Par exemple, se ramasser par une femme. Bon, elle te masse. Moi, je pense à rien. Moi, je pense à me faire masser. C'est bien pour le corps. Ok, mon cher ami, on a peur que... D'accord ? Ça suffit déjà pour interdire.
Même s'il est malade ?
Même s'il est malade.
On parle de vie, on prend un homme pour faire ça.
Oui, d'accord. Donc, c'est ce que je dis.
Chez les médecins, il faut aller chez un homme.
Alors, médecin, on préfère. Mais si maintenant, on a un bon médecin de l'autre sexe, on peut aller chez le médecin de l'autre sexe à du moment qu'il n'y aura pas de mauvaise pensée. Je dis, tous ces contacts courts, un médecin, ce n'est pas un contact long, d'accord ? Il ne fait pas un massage. Il te prend le pouls, il ouvre, ok, ça, ce n'est pas des contacts physiques longs. Donc, sans penser, c'est permis, avec penser, c'est interdit.
Si on arrive aux urgences, c'est une femme qui me prend, il n'y a pas d'autre choix.
Mais ce n'est pas un contact long, encore une fois.
Non, si la personne, manipulation, tout ça.
Quelle manipulation ? Ce n'est pas un massage. Manipulation, c'est tous des trucs courts, c'est rien. Il lève le bras.
Il peut avoir des mauvaises pensées.
Alors, il faut fuir, tu sautes hors de la civière et tu te forces à avoir pas, tu te forces à ne pas avoir de pensée. C'est interdit. Il y a une gmara qui dit qu'il y avait un homme qui était tombé malade d'une femme mariée. Il y avait une femme mariée, il est tombé amoureux d'elle, il n'en pouvait plus, il ne dormait plus et il est tombé en dépression grave. Dépression grave à un point tel que les médecins ont dit, s'il n'a pas de relation avec elle, il meurt. Puis quoi qu'en fèche. Khazal ont dit qu'il crève. Ils ont dit qu'il crève. Après, ils ont dit, ok, autrement, pas besoin. Juste, il la prend dans ses bras. Ils ont dit qu'il crève. Après, non, juste, ils boivent un thé ensemble sans la toucher. Ils ont dit qu'il crève. Après, non, juste, il part derrière un buisson. Et il parle avec elle derrière un buisson. Et voici un moment qu'il a, il la voit toute nue, d'accord. C'est aussi une des étapes. Tout qui crève, crève. Même lui parler derrière un buisson sans la voir, qui crève. Ah, c'est permis normalement. Mais là, vu que la pensée elle est tordue, donc on interdit tout. Une pensée tordue, c'est pire que tout. D'accord. Un acte anodin, s'il y a une mauvaise pensée, cet acte-là devient un support à une mauvaise pensée, ça devient interdit tout de suite.
Mais comment on fait quand un médecin il vient s'occuper de toi et que...
Bah, t'as pas de mauvaise pensée. Le Stapler, je vais raconter cette histoire dernièrement. Le Stapler, Rabbi Yaakov Israël Kanevski, le père de Rabbi Chaim Kanevski, qui était un des grands de la génération passée, dont son fils est un des grands de cette génération. Les deux étaient barrés, avec Roi HaKodesh, les deux étaient des géants. Il habitait en Russie. Le Rav Etzraïm leur a dit de passer la frontière, de quitter la Russie, passer en Pologne.
Le
Rav Etzraïm leur a dit à l'époque, c'était en 1925-26 comme ça, de quitter la Russie. Il y avait des choses de Novardok en Russie. Le Rav il a dit, toutes les choses de Novardok, elles quittent la Russie, elles passent en Pologne. On ne pouvait plus faire de Torah en Russie, c'était impossible. Maintenant, passer la frontière de Russie en Pologne, si on t'attrape, tu te fais en Sibérie, tu meurs là-bas. Alors, il y avait des passeurs qu'il fallait payer. Donc, ils sont allés par groupe, comme ça. Ils sont allés chez le passeur, c'est un paysan de la frontière, tout ça. Et lui, il prend chaque élève, donne un à ses enfants, tout ça, pour chacun des enfants, le fait passer après tout seul. Lui, on lui donne la fille du fermier. Bon, ils sortent, puis ils voient qu'il est tout seul avec elle dans la campagne, Yehoud. Pas le droit d'être isolé avec une femme. Il se met à courir. Elle voit le type qui court, elle le court derrière parce qu'elle doit faire son job de lui faire passer la frontière. Et il court comme un fou, elle court comme à la fin, bah, il a. Et qu'est-ce qu'il s'est retrouvé perdu entre la Russie et la Pologne. Et si un flic, un garde frontière russe l'attrape, il se fait tuer sur place. Mon cher ami, puis quoi renefèche ? Gamar, non, ces choses-là, c'est des choses graves, on ne touche pas. Le monde des filles, c'est très dangereux. Ce n'est pas à vous qu'il faut le dire, on sait bien ce qui se passe dans le monde. Les gens trouvent que c'est exagéré. C'est pas exagéré.
Si.
Hein? Et il est revenu à Yeshiva, il a eu un autre passage. Après, il est revenu de nouveau, ils sont partis là, tout au milieu. Ils étaient en groupe là, tout coup, il a besoin d'aller aux toilettes. Aux toilettes, Baltechak et tout, faut pas se retenir. Donc il s'arrête. Quoi, on s'arrête? On peut pas s'arrêter, on continue. Continuez sans moi. Mais on ne laisse pas ici, continuez sans moi. Et côté sans lui, et de nouveau, il s'est perdu, et il est revenu de nouveau en Russie. Troisième, là, il y a tout coup, Minecha. Tout le groupe a continué, il a fait une travail pour finir, et il a continué tout droit, il est arrivé à Bialystok, là-bas, il est arrivé, on l'a dit, tu es en Pologne. Ah, c'est bon, mais c'est des gens là, c'est des gens, Misrout Nefesh, énorme. Ça, ce sont des exemples pour nous, comment on doit faire Misrout Nefesh, on doit faire abandon de soi pour les mitzvot.
Ah, si on pense juste qu'on dit, ouais, elle est belle, est-ce que c'est considéré comme une.
Un interdit de Raïta, oui, bien sûr, ouais. Tu l'as vu, tu as joui de sa beauté. Si, comme Rabban Gamliel qui est dans la rue, tu as vu que tu es belle, puis que tu n'as pas regardé, mais c'est pas de ta faute, ça va. Tu es dans la rue, tu as une belle femme, tac, tu fermes les yeux. C'est pas de ta faute, c'est permis. Mais une belle femme, ah ouais, vraiment belle. Ah ouais, vraiment, là ça va pas, d'accord. Là ça va pas. Là ça va pas.
Alors c'est quand on est invité, on va dire merci à la maîtresse de maison.
Donc Rouven, Roulachem, on fera une autre fois, on est parti sur les femmes, là c'est terminé. C'est un autre cours, ouais.
Et avant de partir, on veut remercier la maîtresse de maison pour leur repas et tout ça.
On le fait, bien sûr, pas de problème.
On peut la regarder.
Oui, alors, il y a voir et il y a regarder. Voir, c'est comme tu me vois maintenant. Tu regardes pas comme je suis beau, comme ça, d'accord. Tu me regardes normalement. Il faut arriver à voir la femme comme un homme, sans jouir de sa beauté. Alors, ça, il ne faut pas regarder l'autre trop longtemps. Tu regardes.
On la regarde avant, elle est belle, mais c'est
mauvais. Non. Tu regardes un peu de côté, tu. T'es comme. Si c'est en passant comme ça, ça va.
À partir du moment où on se dit elle est belle, c'est un issou ou pas ?
Même sans profiter. Voilà,
jouir de sa beauté.
C'est une belle femme.
Comment tu fais ? Il y a une jouir de la beauté, c'est interdit.
Je dirais, c'est une belle femme, moi je ferai rien.
Mais comment tu sais qu'elle est belle ? Belle, c'est une réaction que tu as dans.
Un jugement sur quelqu'un, en voyant quelqu'un.
Ouais, mais la beauté, d'habitude, ça a un impact. Pas physique en tout cas, un impact, je ne sais pas où.
On peut rien garder sans donner un jugement.
Un chidour, je ne m'existe pas qu'on doit se faire une idée.
Ouais, on peut, c'est marqué, mais c'est marqué pour un chidour, on peut, mais pas derrière Znout, pas de façon débauchée. Pas tu la déshabilles avec le regard, d'accord ? Voilà, vraiment. Donc on revient maintenant sur le sujet. On avait dit qu'il y avait trois cas de Chilou Hachem, de cette première sorte de Chilou Hachem. Il y en a encore deux autres sortes. Il y a trois sortes de Chilou Hachem. Dans la première dont je suis en train de parler, il y a trois cas. Le cas où quelqu'un vient me mettre à la tempe et me dit « transgresse l'interdit de la Torah », je dois transgresser, à moins que ce soit un des trois interdits dont on vient de parler, idolâtrie, assassinat, et tout contact physique qui est interdit par un lave de la Torah, interdit de la Torah, par un lave. Pardon ?
Si on transgresse par exemple l'idolâtrie,
oui.
Mais est-ce qu'il faut qu'il y ait des gens qui nous regardent ?
Non.
Si on est seul à seul, c'est...
Ouais, seul à seul, on doit se retrouver.
Là, on a besoin des témoins, et que ce soit des pharisiens, etc.
Non. Tout seul, seul à seul, mais au sortuer.
Il n'y a pas une okay. À part les trois choses.
Attendez, non, maintenant, je vais t'expliquer chacun. Deuxième cas, si on est en public devant 10 personnes pratiquantes, et la personne, on va dire le je sais pas moi... Un goy qui vient maintenant, un cosaque, d'accord, un nazi, il vient maintenant et te dit transgresse l'interdit de la Torah qui ne fait pas partie des trois premiers. Mange du porc, allume bière Shabbat, que normalement on devrait transgresser pour vivre. Si c'est devant 10 personnes et que le goy, il a aussi maintenant une intention de me faire faire un interdit pour que je fasse un interdit contre la Torah. Je prends un exemple. Il me dit maintenant allume la lumière et c'est Shabbat. Si maintenant, lui, il veut que j'allume la lumière uniquement parce qu'il veut lire. Celui-là, allume la lumière. C'est Shabbat. Ou je te flingue, j'allume la lumière, d'accord ? Je vais lire le truc. Bon, alors j'allume sans problème. Même si on est devant 10 personnes. Donc lui, il me dit, éteins maintenant. Allume, éteins. Ça te fera les pieds. D'accord ? Pourquoi il me fait ça ? Il veut faire un interdit. C'est pas qu'il a besoin maintenant. Il veut pas jouer maintenant, danser un reggae avec les lumières qui s'éteignent et qui s'allument. D'accord ? Lui, il veut maintenant... me faire faire un interdit contre la Torah. Oui ?
Les 10 personnes sont des juifs ou...
Oui, juifs pratiquantes. C'est-à-dire, je dis juifs pratiquantes qui sont là ou qui sont au courant de cela, ça revient au même. Et si maintenant le goy, il a aussi une intention, je dis bien aussi, il peut avoir les deux intentions à la fois, et il a besoin, mais il le fait aussi contre la Torah, il faut se faire tuer. Pour n'importe quel interdit de la Torah.
Donc, si par exemple, il me demande... Comme vous avez dit dans le premier cas, d'allumer la lumière une fois, si je lui dis tue-moi, est-ce que c'est qu'il touche Hachem ?
Ça, c'est une autre question maintenant. Est-ce que lui pourquoi tout le monde d'allumer la lumière ?
Pour
lire ou parce qu'il veut que tu transgresses Shabbat ? C'est ça la question. C'est ça qui change tout. S'il le fait maintenant juste parce qu'il veut lire, t'es pas obligé de te faire tuer. Si maintenant il le fait parce qu'il veut que tu transes Shabbat, tu es obligé de te faire tuer s'il y a 10 personnes qui sont au courant de cela.
Et si je me fais. Si y a pas 10 personnes.
Maintenant, toi tu veux maintenant, tu n'es pas obligé de te faire tuer, tu veux te faire tuer. Grande discussion des poskim. Ok, grande discussion des poskim, grande décision chez le dictionnaire, est-ce qu'on a le droit de faire cela ou pas ? Le Rambam me dit que non. Tu n'es pas le propriétaire de ta vie pour décider quoi en faire. Les poskim disent que oui, et je crois que la halakha est tranchée ainsi. Si tu sens qu'il y a une nécessité maintenant de Kiddush Hashem, tu peux faire cela. Machloket, hein, il ne tranche pas pour finir. Les deux avis existent. Mais on a vu que dans des cas où quelqu'un pense que par l'acte qu'il va faire maintenant, il va faire un grand Kiddush Hashem, c'est nécessaire pour le bien de la communauté ou pour quelque chose, il peut le faire, bien que d'après la loi, il n'est pas censé le faire.
Ce serait pas mieux justement qu'il ne le fasse pas au nom du Kiddush Hashem ? Parce que s'il le fait au nom du Kiddush Hashem, ça peut lui donner une raison de le faire.
C'est une bonne raison. Pourquoi ?
Oui, c'est lui avant tout, il doit garder sa vie. Parce que je veux dire,
pas du tout, je comprends ce que tu dis.
Le premier mitzvah avant tout, c'est de préserver sa vie.
Non. Première mitzvah, c'est sanctifier le nom
oui,
de Dieu.
S'il peut garder sa vie.
S'il peut maintenant. Alors, est-ce qu'il a le droit
maintenant.
Est-ce qu'il a le droit maintenant de se faire tuer comme ça ?
Si son œuvre dans la salle. Et qui sait qu'il va faire un Kiddush Hashem s'il.
Ouais, ouais. Voilà. Alors, il y a qui disent que non. Le Rambam dit que tu n'as pas le droit, comme tu dis toi. D'autres qui disent que oui, il peut le faire. Donc c'est du Rambam. Et il semblerait que c'est aussi du Bach, du Bet Yosef et du Ramban. Mais Agot Oshri, ils ont écrit dans Resh Perek Kama de Ktubot que s'il veut l'armir sur lui-même, est-ce qu'il a le droit de faire cela ? Et le Torah le Rashba dit qu'il y a une machloket là-dedans. On va à l'Ekula. L'Ekula qu'on ne prend pas de risque pour la vie. Mais on peut dire d'un côté qu'ici, par rapport à Kiddush Hashem, où la Torah, elle fait plus attention au poids de la vie, on peut le faire. Et Nira, en conclusion, en suivant la situation que nous voyons, et on voit quelle est son intention, on lui dira de faire comme ci ou comme ça. Donc c'est limite. Ok ? Troisième cas, qu'on est en situation qui s'appelle Gzerat Shmad. Gzerat Shmad, c'est une situation très claire, où il y a une force occupante, ou pas forcément occupante, enfin, on se trouve maintenant face à une puissance qui veut que la Torah disparaisse du peuple d'Israël. Par exemple, il y en a qui ont dit que si l'État d'Israël maintenant dit que les Bachurei Yeshivot vont aller à l'armée, c'est Gzirat Shmad. Leur but, ce n'est pas qu'il y ait plus de soldats à l'armée, ils n'ont absolument rien à faire. Au contraire, ça les dérange qu'il y ait des religieux à l'armée, ça ne sert absolument à rien, ils ne sont pas faits pour cela. Le vrai but, tout le monde le sait, ils veulent que le monde religieux cesse d'exister. D'accord ? Ils savent que si tous les jeunes passent 3 ans à l'armée, ils sortiront complètement ratatinés, il n'y aura plus de monde de Torah. Donc maintenant, c'est une bataille contre la Torah d'Israël. Là, c'est marqué même sur une coutume non obligatoire, telle qu'un lacet. À l'époque, les Juifs lassaient leurs lacets un peu différemment. Il y avait des lacets rouges ou des lacets noirs, d'accord ? Même pour un lacet d'habiller comme un juif, il nous dit maintenant, mets-le comme un goy, même pour ça, il faut se faire tuer. Et en cela, on fait la mission de Kiddush Hashem. Dans tous les cas où on doit se faire tuer et on ne s'est pas fait tuer, on a transgressé l'interdit de Kiddush Hashem.
Je pourrais dire que si on a une menace de tuer pour faire une avéra, quelle que soit la avéra, je m'assure que c'est mieux.
Non, mais d'accord, tu n'as pas le droit. Tu parles de Gzirat Shmad, il faut voir rapidement. Donc on parle en temps normal, ça c'est que pour les 3 interdits graves. Tout contact physique avec une femme provoquant un plaisir, idolâtrie, assassinat. Si maintenant ce n'est pas ce cas-là, on parle maintenant qu'il y a 10 personnes juives pratiquantes ici. Et que le goy maintenant, il a aussi une kavana, une intention de me faire transgresser un interdit. Tout simplement pour aller contre la Torah. Pas qu'il a besoin maintenant que je mette la lumière Shabbat ou que je fasse un biftek Shabbat. Lui, maintenant, il veut m'embêter. Ou les deux. Ou m'embêter et aussi qu'il a un profit. Dans ce cas-là, s'il y a 10 personnes religieuses ici, il faut se faire tuer pour n'importe quel interdit de la Torah. Si c'est maintenant Gzirat Shmad qui a ici un décret d'une puissance qui se bat contre la Torah d'Israël, même pour une coutume. On finira avec l'histoire que j'ai racontée souvent ici, du grand-père du Rav Shalom Serbernick. Shalom Serbernick est le conférencier, c'est un chimiste qui a fait tchouva et qui a mis en place tout le système de conférences qui partait de la base qu'on croit en rien et qu'on veut prouver par A plus B. Et grâce à lui, on peut dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, des millions de balais de tchouva. Grâce à lui, c'est un très bon conférencier aussi, un homme très, très, très candidat au prix Nobel de chimie, une grosse tête. Et donc, ils ont mis en place cette technique de parler que maintenant, il n'y a plus besoin de croire, on veut des preuves, on peut prouver rationnellement. Comment a fait Tchouva ? Il faisait la queue, à l'époque, une seule boucherie en Israël ici qui vendait de la viande blanche, qu'on appelle cela, du porc. Il faisait la queue, parce qu'il y avait un seul magasin, une grande queue. Puis il s'est dit, il s'est rappelé l'histoire de son grand-père. Son grand-père est mort à Kiddush Hashem dans la Shoah. Comment ? Il était dans les camps, et on entendait déjà au loin les canons des Russes. À 10 km déjà, il y avait le front. Les Allemands les ont sortis, ils leur ont dit, on sait que maintenant tout est fini, mais on ne va pas vous laisser comme ça, coupez vos barbes. Est-ce qu'on a le droit de couper une barbe ? Oui, aucun problème. Lui s'est dit, Gzirat Shmad, pourquoi me demande de couper la barbe ? C'est maintenant une puissance qui veut se battre contre la Torah. Eh bien non. Ils l'ont tué avec leurs bottes en le déchirant, en lui déchirant la barbe comme ça avec leurs bottes, comme ça il est mort à Kiddush Hashem. Il dit, moi, mon grand-père est mort comme ça avec la barbe pour faire. Et moi, je vais manger du porc. Et il a fait tchouva. Baruch Adonai. Le Ramon Amen.